Il toussa de nouveau, mais cette fois-ci pas tout seul. Beaucoup des assistants s'agitaient sur leurs sièges et se raclaient la gorge. Je vis le cardinal se passer la langue sur les lèvres et faire un geste anxieux mais courtois pour inviter Guillaume à en venir au fait. Et Guillaume affronta ce qui maintenant paraissait à tous, même à qui ne les partageait pas, les conclusions peut-être désagréables de cet irréfutable discours. Guillaume dit alors que ses déductions lui semblaient s'appuyer sur l'exemple même du Christ, qu'il ne vint pas en ce monde pour commander mais pour se soumettre aux conditions qu'il trouvait dans le monde, du moins en regard des lois de César. Il ne voulut pas que les apôtres eussent commandement et domination. Il semblait donc sage que les successeurs des apôtres dussent être allégés de tout pouvoir mondain et coercitif. Si le pape et les évêques et les prêtres n'étaient pas soumis aux pouvoirs mondains et coercitifs du prince, l'autorité du prince en serait invalidée. Et ce faisant, on invaliderait un ordre qui, comme il fut d'abord démontré, avait été disposé par Dieu. On doit certes prendre en considération des cas fort délicats, dit Guillaume, comme celui des hérétiques, sur les résidus desquels la seule Église, gardienne de la vérité, peut se prononcer, quand toutefois le seul bras séculier peut agir. Lorsque l'Église repère des hérétiques, elle devra certes les signaler au prince qu'il est bon d'informer les conditions de ses citoyens. Mais que devra faire le prince avec un hérétique? Le condamner au nom de cette vérité divine, dont il n'est pas le gardien? Le prince peut et doit condamner l'hérétique si son action nuit à la vie en société de tout le monde, si en somme l'hérétique affirme son hérésie en tuant ou en entravant ceux qui ne la partagent pas. Mais là s'arrête le pouvoir du prince, car personne sur cette terre ne peut être contraint supplice aidant de suivre les préceptes de l'Évangile, sinon où finirait cette libre volonté, sur l'exercice de quoi chacun se verra ensuite jugé dans l'autre monde. L'Église peut et doit avertir l'hérétique qu'il est en train de sortir de la communauté des fidèles, mais elle ne peut le juger sur la terre et l'obliger contre sa volonté. Si Christ avait voulu que ses prêtres obtinssent un pouvoir coercitif, il eût établi des préceptes précis, comme fit Moïse avec la loi ancienne. Il ne l'a pas fait, donc il ne l'a pas voulu. Ou entend-on suggérer l'idée qu'il le voulait, mais qu'il lui serait manqué le temps ou la capacité de le dire en 3 années de prédication? Mais il était juste qu'il ne le voulût pas, car si telle avait été sa volonté, alors le pape aurait pu imposer sa loi au roi, et le christianisme ne serait plus loi de liberté, mais intolérable esclavage. Tout ceci, ajouta Guillaume, le visage hilar, ne limite aucunement les pouvoirs du souverain pontife, mais exalte au contraire sa mission. Car le serviteur des serviteurs de Dieu est sur cette terre pour servir et non pas pour être servi. Et enfin, il serait pour le moins bizarre que le pape eût juridiction sur les affaires de l'Empire et pas sur les autres royaumes de la terre. Comme bien on le sait, ce que le pape dit sur les choses divines vaut pour les sujets du roi de France comme pour ceux du roi d'Angleterre, mais doit valoir aussi pour les sujets du grand khan ou du sultan des infidèles, précisément nommés infidèles parce qu'ils ne sont pas fidèles à cette belle vérité. Et donc, si le pape se chargeait d'avoir juridiction temporelle, en tant que pape, sur les choses de l'Empire, il pourrait laisser soupçonner que la juridiction temporelle, s'identifiant avec la spirituelle, pour cela même non seulement, il n'aurait pas juridiction spirituelle sur les Sarrasins ou sur les Tartares, mais pas davantage sur les Français ou les Anglais, ce qui serait un blasphème criminel. Voilà la raison, concluait mon maître, pour laquelle il lui semblait juste de suggérer que l'Église d'Avignon faisait injure à l'humanité entière en affirmant qu'il lui revenait d'approuver ou de suspendre celui qui avait été élu empereur des Romains. Le pape n'a pas sur l'Empire des droits plus grands que sur les autres royaumes. Et comme ne sont sujets à l'approbation du pape ni le roi de France, ni le sultan, on ne voit aucune bonne raison pour que doivent y être sujets l'empereur des Allemands et des Italiens. Un tel assujettissement n'est pas de droit divin, parce que les Écritures n'en parlent pas. Il n'est pas sanctionné par le droit des gentils en vertu des raisons avancées plus haut. Quant au rapport avec la dispute de la pauvreté, dit enfin Guillaume, ces modestes opinions élaborées en forme d'affables suggestions par lui et par certains comme Marsile de Padoue et Jean de Jandun portaient aux conclusions suivantes. Si les franciscains voulaient rester pauvres, le pape ne pouvait ni ne devait s'opposer à un désir aussi vertueux. Nul doute que si l'hypothèse de la pauvreté de Christ avait été prouvée, non seulement cela eût aidé les minorites, mais renforcé l'idée que Jésus n'avait voulu pour lui aucune juridiction terrestre. Cependant, il avait entendu ce matin des personnes fort sages affirmer qu'on ne pouvait prouver que Jésus eût été pauvre. À la suite de quoi, il lui semblait plus convenable de renverser la proposition. Puisque personne n'avait soutenu et n'aurait pu soutenir que Jésus avait demandé pour lui et pour les siens une quelconque juridiction terrestre. Ce détachement de Jésus des choses temporelles lui paraissait un indice suffisant pour inviter à penser, sans péché, que Jésus avait aussi chéri la pauvreté. Guillaume avait parlé d'un ton si modeste. Il avait exprimé ses certitudes d'une manière si dubitative qu'aucun des présents n'avait pu se lever pour le réfuter. Cela ne veut pas dire que tous étaient convaincus de ce qu'il avait dit. Non seulement les Avignonnais s'agitaient maintenant avec des faces courroucées et en murmurant entre eux leurs commentaires, mais l'abbé lui-même paraissait très défavorablement impressionné par ces paroles, comme s'il pensait que ce n'étaient pas du tout là les rapports dont il rêvait entre son ordre et l'Empire. Et quant aux minorites, Michel de Cézanne était perplexe, Jérôme atterré, Hubertin pensif. Le silence fut rompu par le cardinal du Poghetto, toujours souriant et détendu, qui, de bonne grâce, demanda à Guillaume s'il irait en Avignon pour dire ces mêmes choses à Messer le Pape. Guillaume demanda l'avis du cardinal. Celui-ci lui dit que Messer le Pape avait entendu émettre beaucoup d'opinions discutables dans sa vie et que c'était un homme plein d'amour pour ses fils, mais qu'à coup sûr, ses propositions l'auraient fort affligé. Bernard Guy intervint, qui jusqu'alors n'avait pas ouvert la bouche. « Moi, je serais très heureux si frère Guillaume, si habile et éloquent dans l'exposition de ses propres idées, allait les soumettre au jugement du souverain pontife. »« Vous m'avez convaincu, sire Bernard, » dit Guillaume. « Je n'irai pas. » Puis, s'adressant au cardinal d'un ton d'excuse, « Vous savez, cette fluxion qui me prend à la poitrine me déconseille d'entreprendre un voyage aussi long par cette saison. » « Mais alors, pourquoi avez-vous parlé si longtemps ?» demanda le cardinal. « Pour témoigner de la vérité, » dit humblement Guillaume. « La vérité nous rendra libres. »
« Et non !» explosa à ce moment l'agent de Beaune. « Il ne s'agit pas ici de la vérité qui nous fait libres, mais de l'excessive liberté qui veut se faire vraie. »
« Cela aussi est possible, » admit Guillaume avec douceur. Je sentis par une intuition subite qu'allait éclater une tempête de cœur et de langue bien plus furieuse que la première. Mais il ne se passa rien. De Beaune n'avait pas encore fini de parler que le capitaine des archers était entré et murmurait quelque chose à l'oreille de Bernard, qui se leva soudain et de la main demanda qu'on lui prêtât attention.
« Mes frères, » dit-il, il est possible que cette roborative discussion puisse être reprise, mais à présent un événement d'une immense gravité nous oblige à suspendre nos travaux, avec l'autorisation de l'abbé. Peut-être ai-je comblé sans le vouloir l'attente de l'abbé lui-même, qui espérait découvrir le coupable de ses nombreux crimes des jours passés. Cet homme est maintenant entre mes mains. Mais hélas, il a été pris trop tard, encore une fois. Quelque chose est arrivé là-bas.
Et il indiquait vaguement l'extérieur. Il traversa rapidement la salle et sortit, suivi par beaucoup. Guillaume parmi les premiers, et moi avec lui. Mon maître me regarda et me dit : « Je crains qu'il ne soit arrivé quelque chose à Séverin. »